Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. On est toujours sur notre lancée en ce qui concerne le mariage. Et là, on va passer à une autre phase en ce qui concerne ce point qui est très important. Je nous avais dit que c'est un point sur lequel on va rester un moment parce que tout simplement, on n'a pas touché tous les aspects de ce sujet. Et la Bible nous dit beaucoup de choses en ce qui concerne le mariage. Le mariage, c'est très important. Dis avec moi le mariage. On a parlé des célibataires, on a parlé des fiancés, et maintenant on rentre dans le mariage. On va un peu parler du mariage, parce qu'il y a eu aussi le séminaire sur le mariage, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites lors du séminaire, et après on va rentrer dans la famille. Et je vous assure, quand on aura balayé tout ça, on aura suffisamment les éléments qu'il faut pour pouvoir préparer son mariage avec succès. Si tu appliques tout ce qui a été dit, durant toutes ces semaines, durant tous ces mois, en ce qui concerne la préparation au mariage et le mariage, et pour ceux qui sont déjà mariés, tous ceux qui touchent à la famille, je vous assure, on prospérera. Parce que ça vient de Dieu, c'est biblique. Amen. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur ce point. Comprendre les implications du mariage. Dis avec moi les implications du mariage. Je répète. Que lorsque l'on veut s'engager dans le mariage, lorsqu'on rêve un jour à se marier avec quelqu'un, il est important de comprendre ce que cela implique. Les implications du mariage, pourquoi je dis les implications? Parce que tout simplement, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses qui impliquent le mariage que l'on doit comprendre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier élément, la première implication que j'ai intitulé « Comprendre le principe du quitter son père et sa mère ». Dis avec moi, quitter son père et sa mère. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 2, au verset 18. C'est un passage qu'on a tendance à lire, ou même qu'on ne lit même plus parce qu'on pense qu'on connaît, mais on ne se rend pas compte que toute l'histoire de l'humanité a été jouée là. Je rappelle une chose, n'oubliez jamais cela, c'est que la Bible, c'est l'histoire d'une famille. Dis avec moi une famille. La Bible, c'est l'histoire d'une famille. Une famille qui a été brisée et que Christ est venu restaurer. Tu n'as pas remarqué que les problèmes qui te donnent le plus de maux de tête dans la vie, ce sont les problèmes de famille. Que ce soit les problèmes avec tes parents, que ce soit les problèmes avec tes frères et sœurs, que ce soit les problèmes avec ton conjoint, etc., etc., les problèmes de famille, les problèmes sentimentaux, ce sont les problèmes qui minent le plus les gens. Donc, c'est très important de comprendre que tout s'est joué ici. Et on va le lire ensemble. Genèse 2, au verset 18, nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Si vous voulez comprendre le sujet du mariage parfaitement, c'est ici. Tout ce qui touche au mariage, aux relations sentimentales, tout est ici. Si vous comprenez et maîtrisez et intégrez les trois premiers chapitres de la Bible, Genèse 1, 2, 3, vous avez compris toute la Bible. Vous avez compris toute la Bible. Parce que tout s'est passé dans ces trois premiers chapitres. Tout le plan du salut, la venue du Messie, les enseignements de Jésus, l'Apocalypse, tout sort de ces trois premiers chapitres. Parce que tout a commencé là. Et tout est parti de là. Donc, quand on veut comprendre, intéresse-toi à n'importe quel sujet dans la Bible. N'importe lequel. N'importe lequel. Tu trouveras la réponse à ta question dans les trois premiers chapitres. N'importe quel sujet. N'importe. Le mariage, les affaires, les enfants, quoi d'autre? Au niveau professionnel, destinée, héritage, vision, les relations humaines, tout est parti de ces trois chapitres, tout. Donc quand on s'intéresse au sujet du mariage, tout est là. Et le Seigneur a focalisé mon attention sur plusieurs principes qui touchent au mariage, parce que n'oublions pas que nous avons clôturé la dernière fois sur les fiançailles, n'est-ce pas? Amen, gloire à Dieu, sur les fiançailles. Et en ce qui concerne les fiançailles, on a dit beaucoup de choses. Maintenant, les fiancés sont sur le point de se marier. Ou bien, toi, tu n'es peut-être pas encore fiancé aujourd'hui, mais tu aspires à te marier. Donc, il est important de comprendre ce que ça va impliquer. C'est pas, ça n'implique pas la robe blanche et le costume noir, et puis je l'aime bien, c'est ma copine, demain on va se marier. Etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Dis avec moi, c'est pas ça. ça va bien plus loin. Donc, c'est très sérieux parce qu'il en va de ta vie. Et tout se résume ici. Dieu voit l'homme, il lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il envoie les animaux, l'homme passe à l'étape de nommage qu'on a vu durant le séminaire, etc. Et là, Dieu l'endort, Dieu sort une côte et en forme la femme. Et quand il forme la femme, l'homme, il réveille l'homme. Et quand l'homme se réveille, il voit une magnifique créature. Et là, l'homme fait une déclaration. Ce n'est pas Dieu qui déclare, c'est lui qui déclare. N'oublions pas que la personne qui déclare ici s'appelle Adam. Adam est celui qui nous contenait. Adam est celui dans lequel nous étions tous. Donc, quand Adam parle, c'est nous tous qui étions en train de parler. Donc, tous les êtres humains qui vivent sur cette terre sont soumis à la déclaration qu'Adam a faite. On me suit? C'est très important à comprendre. Hein? Et Adam, n'oublions pas que Adam, avant qu'il ne pêche, Adam était comme Dieu. Adam était divin. Adam était parfait. Donc, toute parole que Adam déclarait devenait une loi divine. Donc, quand Adam fait cette déclaration, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il vient de déclarer quelque chose là. Donc, tous les hommes sont soumis à cette loi. Dis avec moi les implications du mariage. Donc, se marier nécessite de comprendre qu'il y a des implications et des sacrifices de la part des futurs époux. Et qui dit mariage, dit aussi changement de statut social pour adopter un autre. On passe de l'état de célibataire à celui de marié. Ça implique beaucoup de choses. Hein? Ça implique beaucoup de choses. Donc, c'est un très grand risque pour les fiancés de s'engager dans la voie du mariage sans avoir pris le temps et le soin de mesurer ce que cela impliquait. Amen. Et quand tu veux construire ton foyer, il y a des fondations sur lesquelles tu vas poser beaucoup de choses. Et ces fondations, il ne faut pas les rater. Les fondations, c'est ce que j'appelle les fondements de l'alliance. Parce que le mariage, je nous rappelle, c'est une alliance que l'on fait avec quelqu'un. Et cette alliance-là, elle se bâtit sur des fondements. C'est pour ça que notre enseignement durant toutes ces semaines, c'était les fondements du mariage, ok? Pour se préparer et se marier avec succès. Et ces fondations-là, il est important de comprendre que c'est sur cette base-là que l'alliance va partir. C'est sur cette base-là que le mariage va décoller. Donc, si on fausse les fondations, notre foyer, tôt ou tard, va virer à la dérive. Parce que les fondations, là, au départ, sont faussées. Donc, c'est pour ça qu'il est important, c'est ce que Dieu nous fait aujourd'hui, Dieu est en train de nous enseigner. Amen. Mais avant cela, avant de parler du principe du quitter son père et sa mère, je vais d'abord nous rappeler quelques points. C'est très important de comprendre ça. Le premier point à nous rappeler, le premier rappel, c'est que Dieu a créé l'homme pour un but. Dis avec moi un but. Dieu a créé l'homme pour un but. Genèse 1, 26 au verset 28 nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Il y a un principe qu'il faut comprendre dans la vie qui est très important, c'est ce principe-ci. Lorsque l'on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Si tu ne connais pas, si tu ne comprends pas le principe d'une chose, tu vas en abuser. Si tu ne connais pas le but pour lequel Dieu t'a créé, tu vas vivre des années sur la terre à faire des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas appelé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux et qui ne s'épanouissent pas dans la vie. Ils peuvent enchaîner les boulots, les emplois, les projets, ils ne s'épanouissent pas. C'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans tout un tas de projets et qui ne prospèrent pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ne sont pas dans le couloir de leur destinée. Trouve l'appel de ta vie. Entre dans ton couloir et tu vas voir, ça va seulement flow. Tu auras peut-être des oppositions, ça c'est sûr. Tu devras trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir prospérer, progresser, lancer tes projets et embrasser pleinement la vision pour ta vie. Mais je t'assure, Dieu sera avec toi et là, les portes s'ouvriront plus facilement quand Dieu est avec toi. Mais si tu es dans un couloir qui n'est pas ton couloir, eh bien, tu risques de souffrir toute la vie. Imagine, par exemple, tu vois les gens qui font du bodybuilding, là, les gens qui sont costauds, là. Qui font la gonflette. Le gars, il est appelé à ça. Il est plusieurs fois champion du monde de ça. Tu vois les kilos, les barres de kilos là enchaînées. Tu vois, il vient à la gonflette, comme ça, avec sa ceinture au milieu. Et puis, il prend ça devant tout le monde. Wow, il soulève. Wow, champion du monde. C'est son appel. Il est né pour ça. Il était destiné à faire ça. Si c'est vraiment son appel. Toi, maigrichon, tu dis, je veux faire ça. Tu ne peux pas soulever. Parce que ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas ton appel. Je vais vous donner encore une autre image. Vous savez, au temps d'avant, les fermiers, les gens marchaient beaucoup avec les charrettes. Hein, avant. Et ils mettaient souvent des bœufs devant. Deux bœufs ou bien quatre bœufs qui tiraient la charrette du fermier. Et vous remarquerez que ces bœufs-là étaient attachés à la charrette avec des bois. Et on leur mettait quelque chose autour du cou qui les maintenait sur la charrette. Vous suivez? Hein? Et ce collier-là qu'on leur mettait autour du cou, on appelait ça un joug. Un joug, dis avec moi un joug. On appelait ça un joug. Le joug était un instrument qui permettait de maintenir le bœuf attaché à la charrette et il devait tirer ça. Et la charrette était très lourde. Et chaque bœuf, vous êtes d'accord avec moi, chaque bœuf n'a pas la même taille. La même, n'est pas conçu de la même manière. Il y en a qui sont un peu gros, il y en a qui sont un peu plus fins, etc. Donc le fermier, quand il fabriquait les jougs pour ses bœufs, il devait fabriquer des jougs sur mesure pour chaque bœuf. Et si le fermier s'amusait à se tromper de joug sur un bœuf, s'il prenait le joug d'un autre pour le mettre sur un autre bœuf, ce joug-là allait étrangler le bœuf et le bœuf allait mourir. Parce que ce n'était pas un joug qui était adapté à sa taille. Amen. C'est exactement la même chose dans l'appel. Dans l'appel, si tu t'amuses à entrer dans un couloir qui n'est pas ton couloir, tu risques de prendre un joug qui n'est pas le tien. Et tôt ou tard, la position que tu as choisi d'adopter, elle va te tuer. C'est comme par exemple, il y a des gens par exemple qui veulent se lancer par exemple dans le ministère pastoral, ce que je suis en train de faire là. Et ce n'est pas leur appel. Il peut avoir l'air de bien parler, il peut avoir l'air d'être quelqu'un qui s'habille très bien, il a de la prestance sur scène, etc., quand il parle, etc. Mais si ce n'est pas ce à quoi Dieu l'a appelé, ça va le tuer. Ça va le tuer, tôt ou tard. Ça va le tuer. De même, tu veux te lancer, par exemple, parce que, et il y en a beaucoup des jeunes comme ça, malheureusement, j'en croise chaque semaine. Ils parlent bien. Apparemment, la politique, ça paye bien. Donc, je vais intégrer un parti politique du coin, et puis, moi aussi, je vais me lancer. Ça va te tuer. C'est comme ça que vous retrouvez beaucoup de jeunes qui se retrouvent compromis à faire des choses, etc. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils galèrent depuis des années, et comme ils veulent absolument avancer et réussir et prospérer, ils se retrouvent à se compromettre. Ça l'a tué. Ce n'était pas son appel. Et je peux vous en donner plein d'exemples comme ça. Donc, Dieu a créé l'homme pour un but. Dis avec moi un but. Donc, trouve le but de ta vie. Trouve ton appel et entre dans ton couloir. Et quand tu entres dans ton couloir, tu vas voir qu'il y a des choses telles que la passion, le potentiel, tout ça là, ça se développe très rapidement. Tu fais les choses sans effort. Tu travailles tard le soir sans problème. Tu es passionné. Tu es passionné. Donc, quand tu prends ton couloir, tout ce qui est en toi, ça sort naturellement. Parce que c'est ce à quoi tu as appelé. Vous savez comment la maman aigle apprend l'aiglon à voler? Vous n'avez jamais vu de documentaires sur les animaux comme ça? Elle trouvait un documentaire sur les oiseaux, vous prenez sur les aigles. Vous allez voir comment la maman aigle apprend ses aiglons à voler. Ils sont là. Vous savez ce qu'elle fait? Vous avez les aigles, ils vivent en haut, sur les hautes montagnes, les aigles. Elle prend son aiglon, son bébé aiglon, vous allez dire qu'elle est folle. Elle prend son bébé aiglon et puis elle décolle avec lui en l'attrapant sur les griffes. Elle va en haut! Et puis elle le balance. Allez. Et puis elle le retourne au nid. Elle retourne au nid. Elle balance le bébé aiglon et elle retourne au nid. Il n'a jamais volé. Elle retourne au nid, elle est récupérer les autres aussi pour vous dire de balancer. Et puis au bout de quelques minutes, elle voit celui qu'elle a balancé qui vient en volant tout seul au nid. Comment il avait? Parce que quand elle a balancé, elle a dit, oh, mais maman, oh, comment tu peux oser me faire ça, etc. Elle va, débrouille-toi, tu as ça en toi, allez, libère. Libère ton potentiel et vole. Il est destiné à ça. Et face à une situation de crise, il fait sortir ce que Dieu a déposé en lui. Amen. Donc l'homme a été créé pour un but. C'est très important de comprendre ça comme premier appel. C'est son mandat. Et au verset 26, regardez ce que Dieu nous dit. Au verset 26, il dit, faisons l'homme. L'homme, le mot homme ici, que vous voyez ici, c'est le mot hébreu Adam. C'est pour ça que Dieu a appelé l'homme Adam. Adam, ce n'est pas le prénom de quelqu'un, je répète. Adam, c'est une description que Dieu faisait. Dieu a regardé l'homme et en voulant l'appeler, il l'a simplement décrit. Adam. Et Adam, ça veut dire terre noire. Terre noire. C'est pour cela que beaucoup de gens disent que le premier homme était noir. Parce que quand Dieu le regarde, Dieu dit « terre noire ». Parce qu'il avait l'air sombre. Amen, est-ce qu'on me suit? Adam, qui veut simplement dire humanité, race humaine, etc. Encore plus. Au verset 27, il nous dit « Dieu créa l'homme et la femme ». Le mot « homme » ici, et c'est pour ça qu'il est très important quand tu lis ta Bible, de comprendre que ta Bible est écrite en français. si tu veux comprendre le vrai sens des mots, il faut aller lire la version originale. Parce que le français déforme beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais la Bible se contredit, gna gna gna. » Effectivement, parce que quand on a tout traduit en français, il y a des choses parfois, ça colle pas. Amen. Mais quand on prend l'hébreu et le grec, c'est logique. Quand il dit ici au verset 27, « Dieu créa l'homme et la femme », le mot « homme » ici, c'est pas le mot « Adam », le deuxième « homme » là, avec un petit « h ». C'est pas le mot « Adam », c'est le mot « Zakar », qui veut dire « le mâle ». Zakar, Z-A-K-A-R. Et le mâle, il a sa particularité. Et le mot femme, il créa l'homme, Zakar, et il créa la femme. Le mot femme ici, c'est le mot Nekeba, N-E-Q-E-B-A-H. Nekeba. Nekeba qui veut dire femelle. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme avec un grand H, Adam. Et ensuite, au verset 27, il nous précise que Dieu créa l'homme et la femme. En fait, il nous a créé deux genres d'hommes. Les deux sont hommes, mais les deux n'ont pas la même fonction. Le premier, qui est Zakar, c'est le mâle. Et le Zakar, le mâle, est caractérisé par la capacité à porter la semence en lui. C'est lui qui porte la semence. C'est pour ça que c'est les hommes qui déposent la semence dans le sein de la femme pour qu'elle fasse des bébés. Et la femme, la femelle, Nekeba, sa particularité, elle, pourquoi Dieu l'a appelée femelle? Parce que c'est aussi un mâle comme l'autre, sauf que ce mâle-là a la capacité d'avoir un fœtus. Femelle, femelle, Nekeba. Donc, les deux sont complémentaires, les deux sont très importants. Le premier mâle, qui est aussi un homme, Adam, à la semence en lui. Mais cette semence-là, qui est la vie, il a besoin d'un autre homme qui, lui, a le fœtus. Il a besoin d'une femelle, pour pouvoir transmettre cette vie et qu'elle puisse porter la vie et ensuite donner naissance à un enfant. On me suit. Et les deux hommes, les deux ont été destinés à une chose, dominer. Dis avec moi, dominer. Le mot « dominer » ici, qu'il domine, c'est le mot « rada », R-A-D-A-H, qui veut dire « contrôler, soumettre, gouverner, dominer ». Quelqu'un un jour m'a demandé « mais dominer là, ça veut dire quoi ? Dominer l'autre ?» Non. C'est le plus grand fléau de toute l'histoire de l'humanité, quand des hommes ont cru qu'il fallait dominer d'autres hommes, ce qui a donné naissance à l'esclavage. La chose la plus grave qui ait pu arriver dans toute l'humanité, que d'autres hommes tuent d'autres hommes, les dominent. Alors qu'en fait, ce que Dieu disait ici, le mot rada, qu'on a traduit par le mot dominer, il y a deux mots dedans. Il y a le mot don et il y a le mot domaine. Dis avec moi don. Domaine. Le but de ta vie, le but de Adam, c'était de libérer les dons que Dieu avait déposés en lui dans un domaine. Si tu veux trouver le but de ta vie, trouve tes dons et tes talents et trouve le domaine. Et libère les dons dans le domaine et tu seras heureux. Gloire à Dieu. Donc chaque homme sur terre est appelé à ça, à gouverner et à exercer son contrôle dans un domaine. La grande majorité des gens ne s'épanouissent pas dans la vie parce qu'ils ne sont pas dans leur domaine. Ils n'ont pas encore découvert les dons qui sont en eux. Ils font du suivisme. Ils vivent au jour le jour en fonction de ce que la société leur dit de faire. Voilà, il paraît que ce qui est bien à Libreville, c'est de faire audit comptabilité. Bon, on va faire audit comptabilité. Mais qui t'a dit que tu as appelé à ça? Qui t'a appelé à ça? Oh, voilà, je vais aller à l'IOB pour faire quoi? Ben, je vais faire droit. Tu vas faire droit, pourquoi? Ben, il n'y a rien d'autre. Mais tu vas souffrir toute la vie? Non, trouve ton don, sois passionné et engage-toi dans ce domaine-là. Donc, c'est très important de comprendre cela. Et c'est pour cela que l'homme, ayant compris son but, s'est mis à travailler tout de suite. Et Dieu, quand il regarde l'homme, il sait que cet homme-là connaît l'objectif, connaît la vision, sait que son objectif, c'est de libérer les dons et les talents qu'il a en lui et de dominer sur la terre. Et Dieu lui dit, je vais lui faire une aide semblable. La femme, en Genèse 1, 26, avait déjà été créée en esprit. Parce que l'homme a été créé en esprit et ensuite il a été formé avec un corps sur la terre. La femme avait déjà été créée, mais elle n'avait pas été manifestée encore sur la terre. Les deux ont été manifestés à un temps différent. L'homme mâle a été manifesté en premier. Et sachant que l'homme poursuivait une seule chose, la domination, Dieu forme la femme. Et Dieu, quand il forme la femme, il la forme pour venir complémenter l'homme dans sa poursuite de la domination. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que le mariage a été créé pour la domination. Amen. Je vais y revenir tout à l'heure. Et c'est pour cela que Satan, ayant compris ça, je l'ai dit au séminaire, Satan ayant compris ça, dès que Dieu a célébré le mariage, Satan a attaqué tout de suite. Parce que Satan sait que lorsque l'homme et la femme sont unis dans le mariage, il ne peut rien faire. Et les deux vont prospérer et vont réussir dans la vie. Pour ceux qui sont mariés, sache que tous les problèmes que tu peux rencontrer avec ton épouse ou avec ton époux n'ont qu'un seul objectif, c'est de créer la discorde entre vous pour que vous vous sépariez. C'est Satan qui est derrière. Il ne faut jamais oublier ça. Il est rusé et il aime se cacher et jouer les marionnettes, vous faire jouer les marionnettes. Amen. Donc l'unité dans le couple est quelque chose de très capital. Et quand tu es marié, ne laisse jamais quelqu'un venir se mettre entre toi et ton époux, parce que tout simplement c'est diabolique. Dis amen avec ça. Le deuxième rappel important à prendre en compte ici, c'est que Dieu a formé la femme également pour un but, et le but de la femme qui est aussi la domination lorsqu'il l'a créée, mais il l'a formée aussi pour un but. Quel est ce but? C'est d'être une aide pour Zakar, pour Adam, dans le but de l'amener à atteindre cette domination. Donc, toute femme, lorsqu'une femme dit, oui, voilà, je n'ai pas découvert le but de ma vie, je ne sais pas où je vais dans la vie, etc. Ton but est lié à celui de ton mari. Dieu ne peut pas unir deux personnes et leur donner deux visions différentes. Ce n'est pas possible. Ton but dans la vie est lié à la personne avec qui tu vas te mettre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre avec n'importe qui. C'est pour ça qu'il ne faut pas consacrer sa vie à quelqu'un Dieu ne t'a pas destiné. Et vous comprenez pourquoi c'est important de prendre le temps d'enseigner sur ça pour que les jeunes ne choisissent pas la mauvaise personne. Parce que tout simplement, le but de ta vie est lié à cette personne-là. Donc, si tu t'unis à quelqu'un... En France, il y a une femme, une Française, qui était... mariée, elle est partie épouser un Colombien. Ça fait beaucoup de bruit, cette histoire, pendant des années en Europe. Et on en parlait dans tous les journaux, etc. Même elle s'appelait... je vais taire son nom, comme ça enregistré. C'était une blanche. Elle est partie se mettre avec un Sud-Américain colombien. Elle est restée des années mariée avec lui. Et puis ils sont allés vivre en Colombie. Et ils vivaient de manière aisée. Et lui, il disait, je travaille, je fais ça, ça, ça. Donc, elle a toujours cru qu'il travaillait de manière normale, comme tout le monde. Et puis, un jour, elle voit la police qui débarque dans leur maison, qui embarque tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la police dit simplement que votre mari est un grand dealer de drogue que l'on recherche depuis des années. Et on l'a enfin retrouvé. On l'arrête, on le met en prison. Et vous aussi, on le met en prison. Parce que vous ne pouviez pas rester autant d'années à côté de votre mari sans savoir que c'était un dealer de drogue. Elle a clamé son innocence pendant des années en disant qu'elle n'était jamais au courant. La France a tout fait pour la sortir de prison. Elle est sortie des années après, mais elle a eu le temps de passer, je ne sais pas combien d'années en prison. Elle a toujours clamé son innocence. Elle s'était liée à la mauvaise personne. À cause d'un mariage, sa vie a été gâchée. Elle est sortie de prison aujourd'hui, mais... c'est compliqué. Donc, il ne faut pas jouer avec le mariage. Une jeune femme, elle s'est mariée à la trentaine, à la vingtaine. Et quand elle était en prison, là, quand elle est sortie à quoi? Un peu moins de 40 ans. Elle a passé près de 10 ans en prison. Juste parce que, tout simplement, elle était avec quelqu'un et il lui a menti dans la maison qu'il faisait autre chose alors que c'était un grand dealer de drogue. Elle ne voyait rien. Et la police disait, mais c'est pas possible que tu n'aies rien vu. Donc, il ne faut pas jouer avec le mariage. Donc, la femme, elle est là pour un but, celui d'être associée à son mari pour l'aider aussi à avancer. Amen. Donc les deux sont complémentaires et l'homme ne peut rien faire sans elle. Même si cette femme, demain, je t'assure, elle t'énervera comme quoi, je t'assure, tu auras besoin d'elle. Parce que si tu ne te sépares d'elle, tu auras du mal à atteindre ton but. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le divorce. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le divorce. Parce que lorsque deux personnes qui sont destinées à être ensemble divorcent, ils hypothèquent leur avenir. Oui, il y a une vie après le divorce. Oui, on peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Mais après, ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas facile de se relever après. Deuxièmement, c'était que Dieu a formé la femme pour un but. Et troisièmement, c'est que le mariage est bon. Dis avec moi, le mariage est bon. Le mariage est bon et il a été créé pour le bien de l'homme et non pour lui apporter des problèmes. Et avec tous les échecs auxquels on assiste aujourd'hui au niveau des foyers, particulièrement dans notre pays, le Gabon, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont mis à croire que le mariage n'est pas bon. Alors que Dieu a créé le mariage pour rendre l'homme plus heureux. Le mariage est bon. C'est pour ça que Dieu a dit, lorsqu'il a créé l'homme, il le vit et il dit, ce fut très bon. Et lorsqu'il donne le mariage, il ne fait que confirmer ce qu'il avait dit. Le quatrième rappel, c'est que le mariage rend la vie meilleure. Le mariage rend la vie meilleure. Dans Ecclésiaste 4, au verset 9 à 12, Salomon nous dit ceci. Salomon nous dit, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Et il nous dit encore dans Deutéronome 32:30, « Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite ?» La vie de célibataire est bien. La vie en couple marié est beaucoup mieux. Dis amen avec moi. Le mariage est là pour rendre la vie meilleure. Lorsque des gens décident de se marier, c'est pour avoir une vie meilleure. C'est pour pouvoir poursuivre la vision que Dieu a déposée pour nous beaucoup plus rapidement. On est censé aller plus vite ensemble. Amen. Parce que l'autre avec qui tu te mets a des capacités et un potentiel que tu n'as pas. Donc ça va venir être un plus pour toi, pour aller de l'avant. Donc le mariage est là pour rendre la vie meilleure. Mais malheureusement, la plupart des couples, lorsqu'ils ne comprennent pas leur rôle en tant que couple, ils s'attirent des problèmes inutilement. Mais lorsque chacun connaît sa place, lorsque chacun connaît son rôle en tant qu'homme et en tant que femme, ça décolle. Donc comprendre ces quatre choses-là est très important et il faut toujours s'en souvenir, toujours se souvenir que le mariage, c'est pour ceux qui ont choisi de rentrer dans le couloir de leur destinée et de marcher vers la domination. Dis avec moi domination. Le mariage, c'est pour ceux qui ont compris que l'union conjugale avec son fiancé est une clé puissante pour manifester notre domination sur terre. Il est pour ceux qui ont compris qu'à deux, ils feront encore plus de choses et ils en poursuivront 10 000. Il est pour ceux qui ont choisi de travailler en équipe et qui savent qu'ensemble, ils pourront toujours se soutenir et relever l'autre quand un tombera. Et quand ils savent qu'à deux, ils seront encore plus forts, le diable ne peut rien faire. Amen. Donc aujourd'hui, je déclare que ton mariage, que votre mariage vous fera rayonner à la gloire de Dieu et qu'il vous conduise à la domination au nom de Jésus-Christ. Dis amen avec moi. Ouais, c'est très important. Le mariage implique beaucoup de choses. Et la première chose que le mariage va impliquer, c'est avec ça qu'on va terminer, c'est la première déclaration que Adam a faite. La première déclaration qu'Adam a faite a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Dis avec moi, quitter ses parents. Quitter ses parents, c'est la première implication quand on veut s'engager dans le mariage avec quelqu'un. Je rappelle encore ce qu'il nous dit. Il nous dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Le mot quitter ici, c'est le mot hébreu azab, A-Z-A-B, azab, qui veut dire abandonner, laisser derrière. quitter son père et sa mère, quitter ses parents. Et cette obligation, elle concerne en tout premier l'homme, mais elle concerne aussi la femme. Parce que d'une certaine manière, la femme doit aussi quitter. Mais celui qui doit quitter, surtout quitter, et en premier quitter, c'est l'homme. Amen. C'est très important. Lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden, pour revenir un peu dans le contexte, lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden, il était seul dans un bel endroit, paradisiaque. Il y avait les animaux, il y avait la plantation, les plantes, tout ça. Et il y avait quelqu'un d'autre de très important avec lui qui était Dieu. Dis avec moi Dieu. Il y avait lui et Dieu. Et Dieu jouait un peu le rôle de papa et de maman en même temps. Donc d'une certaine manière, Dieu était les parents de Adam, de Zachar, mon ami Zachar. Dieu était son père et sa mère en même temps. Vous suivez ? Dieu jouait ce rôle. Au départ, Adam n'avait aucun problème avec ça. Adam n'avait aucun problème avec le fait que Dieu soit son père et sa mère. Adam n'a jamais pensé à se partir du jardin. Adam n'a jamais pensé à aller manger le fruit défendu. Adam n'avait aucun problème à la maison avec ses parents. Et Dieu crée, Dieu forme une femme. Dieu n'a aucun problème avec la femme. Hein? Sauf que quand Dieu crée, forme la femme, la manifeste, quand Dieu prend du recul et il regarde la femme et elle, il dit, ils vont très très bien ensemble. Waouh, c'est génial. On va former un très beau foyer à trois. Et là, l'homme ouvre sa bouche. L'homme aurait pu dire, voici celle qui ose de mes os, elle s'appellera femme. C'est pourquoi ils deviendront une seule chair. Il aurait pu dire ça? Non. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et puis Dieu dit, oh, mais toi aussi, qu'est-ce que tu dis là? Tu veux me quitter? Amen. Tu veux me quitter? Adam a regardé Dieu, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, dès ce moment, Dieu a réalisé que, de manière inévitable, il ne pourrait jamais faire un ménage à trois. Et la nature de la femme, Dieu s'est rendu compte quand il a formé sa créature et qu'il lui a donné un corps, il s'est rendu compte que la nature de cette créature-là, de cette personne-là, allait certainement amener l'homme à désobéir. Parce qu'elle avait une capacité à l'influencer. Une manière de l'influencer que Dieu lui-même ne contrôlait pas. Les hommes, vous n'avez pas remarqué que quand on devient l'homme d'une femme, quand une femme entre dans la vie d'un homme, on peut monter, descendre, la femme là, quand elle le tient comme ça là. On peut dire Dieu comme quoi? Quand tu aimes cette femme, si cette femme dit, laisse Dieu, suis-moi. S'il doit choisir entre Dieu et la femme, il va choisir la femme. Oh, mais je vous dis. Je vous dis. Et Dieu découvre ça. Et Dieu, même lui, n'a jamais compris le cœur de l'homme à cause de la femme. C'est pour ça que Dieu parle au travers de la bouche de Salomon dans Proverbe 30, au verset 18. Et Dieu dit, il y a trois choses, c'est Salomon qui dit ça, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, mais il est inspiré du Saint-Esprit. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. Proverbe 30, verset 18. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de l'eau, et le dernier dit quoi? Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Il dit, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire, l'homme là, on peut tout faire. Quand il est dans le loving de cette petite, il ira toujours là-bas. C'est fort, hein? C'est fort. Donc, Dieu avait compris que cette femme-là allait séparer Adam de lui. Il avait compris tout de suite. Donc, il savait que le péché était inévitable. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, entre Adam et Ève, La personne qui avait un parent légitime, c'était Adam, Zakar. Il avait comme papa Dieu. Dieu était aussi le père de Adam, mais c'était le père de Adam plus au travers de... C'était le père de Ève plus au travers de son mari. Donc Dieu était un peu comme un beau-père pour elle. D'accord ? Dieu était un peu comme un beau-père pour Ève. Ce n'était pas vraiment directement son père. Parce qu'elle, quand elle est arrivée, elle a trouvé son mari avec un père qui s'appelle Dieu. C'était aussi son père, mais elle faisait tout au travers de son mari. Donc si le mari dit « on quitte », donc elle dit « ah, on quitte », et puis elle est partie. Elle aurait pu dire « non, mais attends, c'est Dieu quand même, je reste ». Non, elle a suivi son mari. Amen. Donc, aujourd'hui, le principe de quitter son père et sa mère, de quitter ses parents, c'est un principe qui est très important. Ne pas quitter ses parents, aujourd'hui, est toujours une source de gros problèmes pour un homme. C'est une loi divine instituée depuis Éden. Tout homme qui décide d'aller fonder son foyer et qui ne quitte pas ses parents est appelé à souffrir. C'est une loi. Amen. Donc, lorsqu'une femme, vous parlez de l'homme, lorsqu'une femme dans le foyer vit avec un homme où elle ressent encore la présence des parents, ça cause des problèmes dans le couple. Toujours. Parce que lorsqu'un homme n'a pas coupé les liens avec ses parents, ça cause des gros soucis. Et d'une certaine manière, l'homme doit se détacher de ses parents et la femme aussi doit se détacher de ses parents. La femme reste quand même un peu attachée à ses parents parce que c'est lui qui quitte et qui vient la chercher. Mais elle aussi, elle quitte quand même. D'accord ? Mais c'est surtout l'homme qui doit quitter. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de problèmes comme ça dans les foyers. Beaucoup de problèmes comme ça dans les couples. Où les parents sont très présents dans le couple. Et les parents minent le foyer. Il y a des parents qui ne se rendent même pas compte que par leurs propres mains, ils détruisent le foyer de leur enfant. Parce qu'ils sont trop impliqués dans la vie conjugale de leur enfant. Et ça détruit les foyers. Pour chaque problème ou décision à prendre à la maison, tu vois des hommes qui sont comme des enfants qui vont toujours chercher la solution chez leurs parents. Et ça crée de gros soucis. C'est un vrai problème. À la moindre dispute, je vais chez mes parents. Oh. En fait, il n'a jamais quitté la maison. Il n'est pas devenu un homme. Et la femme se rend compte qu'elle n'a pas épousé un homme. Elle a épousé un garçon. Le garçon ne quitte pas la maison. C'est l'homme qui quitte la maison. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se sont mariés et qui sont restés des garçons. Donc, assure-toi, quand demain tu vas construire une relation amoureuse avec quelqu'un, assure-toi de devenir un homme vite. Il ne faut pas aller te mettre avec quelqu'un, dire que tu vas construire ta propre famille et tu es toujours un garçon. Toujours aller vers ta famille. Parce que la famille ne peut pas construire ton foyer. Donc, il ne faut jamais oublier ça. C'est un principe. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu avec moi? Alors qu'un foyer se construit avec un homme et une femme, et non avec un garçon et une fille, ou un garçon et une femme. Quand c'est l'homme qui n'a pas quitté le cocon familial, la femme, au bout d'un moment, elle en a marre. Et quand c'est la femme qui est toujours trop proche de sa famille, et sa famille a toujours le nez dans son foyer, l'homme, au bout d'un moment, il en a marre. Et ça crée des soucis sérieux. Donc, pour bâtir un foyer, on doit se libérer des liens de nos parents avant le mariage. Et c'est un principe, le principe du quitter son père et sa mère est trop capital. On parle de mariage ici, non? C'est trop capital. Regardez ce que Jésus-Christ nous rappelle. Jésus est en train de parler aux gens en ce qui concerne le mariage et Jésus-Christ prend le temps de leur rappeler ce principe-là. Jésus-Christ leur dit en Matthieu 19 au verset 5, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Jésus-Christ a pris le temps de rappeler ça. Combien de temps après? Parce que les gens en fait ne se rendent pas compte que mais il y a trop de problèmes avec la famille. Beaucoup de couples aujourd'hui au Gabon et dans le monde d'ailleurs souffrent à cause des familles. Parce qu'il y a des familles qui sont trop impliquées dans les couples. Dans les foyers, trop. Et c'est une loi. Cette loi est le point de départ de tout foyer. C'est la loi de départ pour construire son foyer avec son conjoint. Et cette loi consiste à gagner ce qu'on appelle l'indépendance parentale avant son mariage. Toute personne qui n'a pas acquis son indépendance vis-à-vis de ses parents ne peut pas espérer s'épanouir dans son foyer. Car tant que les parents seront présents dans votre foyer, ils s'immisceront toujours dans vos affaires et cela vous causera toujours des troubles entre vous. Gloire à Dieu. Donc, avant qu'il y ait un attachement total entre l'homme et la femme, il doit y avoir une séparation totale et définitive avec les parents. Total, dites-moi total. Et même si les parents ont accepté le mariage, quand la séparation affective n'a pas été totalement faite, certains parents ont toujours tendance à se mêler des affaires du foyer de leurs enfants et causent eux-mêmes des problèmes à leurs propres enfants. Quand je parle de séparation affective, je mets « affective » en guillemets, parce qu'on restera toujours attaché à nos parents, on les aimera toujours, d'accord? Mais il ne faut pas que cette affection que l'on a pour les parents-là vienne devenir un problème dans notre maison. Moi, un jour, il y a en 2003, je m'étais assis pendant 4 heures dans le salon d'un couple ivoirien, parce que la femme avait demandé le divorce. Et puis, quand il m'a appelé et quand je suis parti, la femme me dit... Sa mère, c'est comme si elle vit ici avec nous. Pourtant, elle est à Abidjan. Mais c'est comme si elle vit ici. Et puis, quand sa mère appelle pour dire qu'elle vient à Paris, je ne reconnais plus mon mari. Il n'est plus à la maison. Il rentre toujours tard le soir. C'est-à-dire, il est avec sa maman. Et il me sort toujours, attends, ma mère, je ne la vois pas de toute l'année. Quand elle vient, je lui consacre tout mon temps. Donc, moi, tu m'oublies quoi? Et quand elle vient, elle vient, oh, chez vous, c'est comme ça. Il vient le soir avec plein de trucs. Regarde tout ce que maman a acheté pour toi. C'est pour la cuisine, ça c'est pour la chambre. Ça, c'est... Elle dit, mais je fais ce que je veux chez moi quand même. Ta mère, elle me donne pas mon avis avant d'acheter des choses. Hein? Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, des problèmes. Donc la séparation affective, entre guillemets, elle est très importante. Il ne faut pas que ça vienne miner le couple. Et aujourd'hui, les jeunes, vous êtes très attachés à vos parents. Mais demain, quand vous allez vous mettre avec quelqu'un, et que vous allez vous fiancer. L'étape des fiançailles, là, quand vous allez rentrer dedans, il faut vous assurer que les parents, là, c'est fini. On part là. Quand on part là, je pars avec lui. C'est ma maison, c'est mon foyer. Le jour où papa va prendre ma main et puis va donner ça à l'homme, là, c'est fini. Ton père, c'est maintenant lui. Ton père physiquement reste toujours ton père. D'accord? Mais celui maintenant qui passe en premier dans ta vie, c'est ton mari. Amen. Et certains parents, malgré le mariage, considèrent toujours leurs fils comme des bébés et ainsi ne peuvent pas leur faire confiance pour prendre leurs propres décisions. Et même quand les parents sont en Christ, il y a des parents, parfois, qui ont des comportements, même comme les gens du monde, comme les païens, pour gérer les affaires de leurs enfants. Même, il y a des parents, même en Christ, hein, quand vous les voyez, quand ils règlent les problèmes de famille, ils se comportent comme des païens. Ils veulent avoir toujours la même mise sur le foyer de leur enfant. Ils sont toujours là à surveiller ses faits et gestes pour voir ce qui ne va pas chez lui. Ils interviennent à la moindre occasion, comme quand il faisait encore, quand il était encore à la maison ou à l'école. Ils se mêlent de tout. Ils donnent leur avis. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Voilà, papa, j'ai un problème chez moi. Mais je t'avais dit, non? Blablabla. Je t'avais dit que ton couple, c'était comme ça. Hein? Ta femme, ceci. Nanana, commence à parler de ta femme. Commence à parler de ton mari. Et toi, tu es là seulement, tu encaisses. Boum, 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 boum. Et quand tu rentres à la maison, oui, ma mère a dit ça, ma mère a dit ça. J'en ai marre de ta mère. Elle vit ici avec nous. J'en ai marre de ton père. Il est toujours là à te donner tout un tas de conseils. Mais ce n'est pas lui que j'ai épousé, c'est toi que j'ai épousé. Ce que je vous dis là, pas plus tard que mardi de cette semaine, je suis resté au téléphone avec une jeune fille, près d'une heure, parce qu'elle venait, elle était déboussolée et abattue parce qu'elle avait décidé de se séparer de son fiancé avec qui elle est depuis très très longtemps. Elle est gabonaise et vous savez c'était quoi le problème? Le problème c'est qu'elle me dit, chaque fois qu'on a un souci, c'est sa maman. Je ne peux plus. J'en peux plus de sa maman.
Et sa maman, pas plus tard, qui a encore débarqué ici pour dire, mais toi, comment tu prends soin de mon fils? Non, non, non. Elle dit, mais si je vais épouser un jeune homme comme ça, mais sa mère va vivre avec nous. Elle dit, je lui ai dit que c'est fini entre nous. Donc, je voulais vraiment parler avec quelqu'un dont je t'ai appelé. J'ai dit, mais écoute, le principe de quitter son père et sa mère, là, ça peut détruire un foyer. Hein. Donc, il y a des personnes mariées aujourd'hui qui ont décidé de se marier et qui ne peuvent même pas prendre une décision sans d'abord consulter leurs parents. À la moindre dispute, je retourne chez mes parents. Dès qu'elle est fâchée, elle dit, je retourne chez mes parents, j'en ai marre, c'est là où tu m'as pris. Je retourne chez moi. Mais chez toi, c'est où? Chez toi, c'est ta maison. Chez toi, c'est ici. Non, mais chez mes parents, c'est chez moi. Chez tes parents, c'est plus chez toi. Ce sont chez tes parents. Chez tes parents, ce n'est plus chez toi depuis le jour où tu m'as épousé. Non, mais c'est toujours chez moi. J'ai toujours ma chambre là qui m'attend. Non, 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 non. Je suis ton mari, tu restes ici. Ici, c'est chez toi. Si tu sors d'ici, c'est pour dormir dans la rue. Pas chez tes parents.
Amen, gloire à Dieu. Donc, on ne pourra jamais prospérer dans le foyer si on ne se sépare pas des parents. Parce que tout simplement, le mariage, c'est une alliance. Et alliance veut dire engagement à vie, mort à soi-même, et on vit maintenant pour l'autre. C'est quelque chose de très sérieux. Et tant qu'il y aura des gens qui s'interféreront dans votre couple, particulièrement vos parents, vous ne pourrez pas profiter pleinement de votre mariage. Ne laissez jamais les parents venir s'immiscer dans votre couple demain. Jamais. Jamais. Parce que ça créera toujours des problèmes. Parce que chaque fois que les parents de l'un vont se mêler d'un problème à la maison, l'autre se sentira toujours mis à l'écart. Toujours. Et ça créera toujours des soucis. Par exemple, il y a des gens, par exemple, un homme, par exemple, il veut offrir un cadeau à sa femme. Il veut lui offrir une voiture. Et il va voir sa maman. Maman, j'ai décidé d'offrir une voiture à mon épouse. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux lui offrir quoi? Une voiture. Oh, mais comment tu veux lui offrir une voiture? Tu ne vois pas la voiture avec laquelle nous roule depuis des années là. Tu n'as même pas pensé à une de... Ah, au moins les autres. Mais elle dit ça parce qu'elle veut semer le trouble. Au lieu de dire, oh mon fils, je suis ravi pour ta femme, tiens, prends-lui telle voiture. Non, non, mais ton frère est là, il est à pied tous les jours. Tu ne même pas lui acheter une petite voiture. Ça t'a... Mais c'est ma femme quand même, non? Je pense à ma femme. Mais c'est vrai, c'est ta femme quand même. Mais toi aussi, avec l'argent que tu as, tu regardes un peu, aider un peu ton frère. Oh, toi aussi. Hein? Elle vient de tout casser. Hein? Elle, papa, j'ai envie d'offrir un cadeau à mon époux pour son anniversaire. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Mais elle ne sait pas que la veille, le fils a raccroché au nez au père. Et le père dit, tu lui offres quel cadeau là? Ton fils là, je ne veux pas en entendre parler. Laisse tomber. C'est fini. Il n'y a qu'un problème entre toi et lui. Je ne veux pas en entendre parler. Heureusement que c'est ton mari. Hein. Sinon, c'est fini. Tout est cassé. Donc, quelle que soit la décision qu'on a à prendre, quel que soit ce qu'on veut faire, on doit toujours se consulter mutuellement d'abord. Amen. C'est très important. La consultation du conjoint est primordiale et prioritaire. Tu ne fais rien dans ton mariage sans d'abord consulter ton conjoint. Il y a des parents aujourd'hui qui se plaignent que leur enfant mette son époux en premier. Mais c'est son époux. Oui, mais je suis aussi ton père. C'est son époux. Aujourd'hui, son époux passe avant toi. Sa femme passe avant toi. Ordre de priorité, ma femme et ensuite la maman. Mais il y a des moments, parce qu'elles n'ont pas coupé ce lien affectif-là, elles n'ont pas laissé partir leur enfant de la maison, elles ont du mal à accepter ça. Et elles créent des problèmes à la femme dans son foyer. Elle veut toujours avoir le dernier mot dans le couple et jouer le rôle de la femme. Et ça, c'est un gros problème. Le mariage exige de la maturité entre les époux et tu dois le faire savoir à tes parents. Tu dois leur faire comprendre que désormais tu es marié et leur avis passe après celui de ton conjoint. C'est très important ça. Vous savez pourquoi j'ai pris le temps de parler de ça aujourd'hui? Pourquoi Dieu m'a montré ça dans la Bible? Parce que le pays dans lequel on vit, le Gabon et en Afrique en général, les histoires de famille là, c'est sérieux.
les histoires de famille qui se mêlent de tout dans les foyers là, c'est sérieux. Ah oui, c'est très sérieux. Les familles africaines, oh, surtout le lien du fils avec la mère, oh, le lien des hommes avec les Africains avec leur maman. Oh, tu touches à la maman d'un garçon, d'un Africain. Oh, il peut tuer tout le monde hein, quand on touche à sa maman. Quoi? Quand on touche à sa maman, les pères, garçons et pères, bon, c'est le père, quoi. Tu sais, les pères, ils ont. Il n'y a pas vraiment de. Tu sais, ici, les gens manifestent pas beaucoup d'amour, les pères manifestent pas beaucoup d'amour. Donc, il n'y a pas toujours ce lien très fort entre le fils et les pères, même s'ils s'aiment vraiment, tu vois. Mais la maman au pays, la maman. Ah, la maman. Qu'elles ont mis avec moi, la maman. Hé hey. La maman. C'est pour ça que le jour où tu te maries, la séparation avec la maman, là, c'est quelque chose de compliqué. La maman, ah, c'est compliqué. Donc, quand, par exemple, ta femme à la maison ose parler en mal de ta maman, quoi, tu parles de ma maman? N'ose jamais parler en mal de ma maman. Jamais. Elle peut dire du mal même de ton père. Hein? Mais quand elle touche à la maman, gloire à Dieu. Donc, pour que le mariage puisse prospérer, et on va finir par ça, le cordon ombilical doit être coupé. Amen. Doit être coupé. Ta femme d'abord, ton mari d'abord, votre foyer d'abord. Le principe du quitter ses parents implique la rupture du cordon ombilical. Je vais nous donner une très belle image. Vous savez, quand l'enfant est conçu dans le sein de sa maman, il y a le cordon ombilical. C'est Dieu qui a créé ça. C'est par ce cordon-là que la maman nourrit le bébé. Tout ce qui est à la maman passe chez le bébé au travers de ce cordon. Ok? Dieu a fait en sorte, dans sa sagesse, que l'enfant vive 9 mois dans le sein de sa, dans le ventre de la maman, dans le sein de la maman, de la mère. Et dès que les 9 mois arrivent à terme, la nature veut que l'enfant soit naturellement expulsé du sein maternel. Sinon, il va mourir. Et quand la maman, quand la grossesse dépasse le temps, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital même pour provoquer l'accouchement. Parce qu'il faut que l'enfant sorte. Il ne peut plus vivre dans le cocon là, à l'intérieur. On est obligé de le sortir. Et on fait des choses pour l'éjecter, en fait. D'accord? Et quand il sort, là, il y a un cordon, là, le cordon qui lie la maman avec l'enfant, là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. C'est la sagesse de Dieu qui veut ça. Parce que si on ne coupe pas le cordon, là, ça peut tuer les deux. Ça peut tuer le bébé et ça peut tuer la maman. On est obligé de couper ça. C'est très important. Le cordon qui a lié l'enfant à la maman pendant 9 mois dans le sein, ce cordon-là, une fois que le bébé est dehors, on coupe ça. Pourquoi Dieu veut qu'on a voulu qu'on coupe ça? Parce qu'il faut que l'enfant puisse commencer maintenant à évoluer seul. Il était toujours nourri par ce cordon-là quand il était dans le ventre. Maintenant, il faut qu'il apprenne à manger seul. Et quand il veut apprendre à manger seul, là, même s'il est en train de pleurer, « Ouais, ouais, pourquoi vous coupez mon cordon? Ouais, je vais manger comment ?» On prend le bébé, on lui donne le sein de la maman. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'a jamais fait ça de sa vie, mais il commence à... Il s'est tété. Comme le bébé aiglon qu'on a lancé, qui s'est volé, lui aussi, il se rend compte qu'il s'est tété. C'est en lui. Donc on a coupé le cordon pour le laisser évoluer tout seul. D'accord? Et la maman, elle aussi, il faut qu'on coupe le cordon pour qu'elle puisse aussi jouer son rôle de mère maintenant, normalement. Parce que tant que l'enfant est à l'intérieur, elle ne jouait pas vraiment le rôle de mère. Mais quand elle le porte là maintenant, elle joue maintenant son rôle de mère. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le cordon ombilical symbolise l'attachement et la dépendance. Il est nécessaire pendant un certain temps, mais si on ne le coupe pas, ça va créer des soucis aux deux personnes. Et quand on coupe ça, on coupe un lien. On coupe quelque chose qui les lie pour que le bébé puisse commencer maintenant à grandir. Il y a 3 types de cordons ombilicaux à couper avec les parents. Que Dieu m'accorde encore 5 minutes pour qu'on termine. 3 types de cordons ombilicaux à couper avec ses parents. La première rupture du cordon ombilical à couper avec les parents, c'est le cordon ombilical affectif. Dis avec moi, affectif. C'est un lien qui est très important. Et pour le bien de l'homme, pour le bien de l'homme,
Dieu sachant que ce cordon devait être coupé pour que l'homme puisse s'épanouir avec sa femme, Dieu qui jouait le rôle de papa et de maman, a dû même aller jusqu'à chasser l'homme et sa femme du jardin. Dieu les a chassés. La Bible dit, Dieu les chassa. Il les chassa du jardin. Il y a des parents, ils n'ont pas compris le principe du quitter son père et sa mère et ils veulent garder les enfants parce qu'ils sont encore attachés à l'enfant. Il y a des parents, quand tu vois que l'enfant ne veut pas se détacher, il faut le chasser. Il faut le chasser. Au moins le problème, papa, j'ai un problème à la maison. Sors chez moi, va régler ton problème avec ta femme là-bas. Pourquoi tu viens me voir? Arrête de toujours venir nous voir quand tu as un problème avec ta femme. Il faut le chasser parce qu'il n'a pas grandi. Il faut qu'il devienne un homme. Et vous, demain, quand vous allez vous marier, si vous jouez ce rôle-là, si vous voyez que vos parents toujours vous accueillent les bras ouverts au moindre problème lorsque vous allez les voir, ils vous mettent en danger. Ils vous mettent en danger. Ils mettent en danger ton couple. Tu as l'impression qu'ils t'aident, mais ils ne t'aident pas en fait. Ils ne t'aident pas. Abraham, la Bible nous montre qu'Abraham, pour pouvoir évoluer dans le couloir de sa destinée, Dieu a vu que le lien du quitter son père et sa mère là n'était pas coupé. Et Dieu a dit Abraham, Genèse 12, 1, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La version française courante nous dit, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Quitte ton pays, quitte ta parenté. Quitte tes parents. Vous savez ce qu'Abraham a fait? Il a quitté la maison et il a pris Lot avec lui. Vous savez pourquoi il a pris Lot? Parce que le papa d'Abraham était mort. Il s'appelait comment le papa d'Abraham? Je crois que c'était Terak, son nom. Et il était décédé. Donc, prendre Lot, lui rappeler un peu ce lien affectif qu'il avait avec son père. Il prend Lot. Alors que Dieu a dit, quitte la maison, quitte ta parenté. Et il prend Lot. Vous savez, quand vous regardez la Bible, je vous ai toujours dit, allez chercher les mots derrière. Vous savez ce que ça veut dire, Lot? L-O-T, en hébreu, Lot. Dites-moi Lot. Lot, ça veut dire le voile. Voilé. Donc, il prend quelqu'un qui va être pour lui un voile et qui va l'empêcher de voir clair. Et regardez l'histoire d'Abraham. Quand il a quitté et il est parti avec l'autre, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes et il a eu tellement de problèmes. Il est parti en Égypte, tout ça. Et au bout d'un certain temps, il y a eu un problème avec l'autre, sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Et Dieu a fait comprendre à Abraham que tant que tu gardes ce gars-là chez toi, il va te créer des soucis. L'histoire de famille, là, je ne veux pas de ça chez toi. Chasse-le. C'est Abraham qui prend la décision de dire à Lot, Lot, on se sépare. Où tu iras, moi j'irai de l'autre côté. Lot regarda les plaines de Sodome et de Gomorre et alla à Sodome et Gomorre et Abraham dit, moi je vais à Canaan. Si Lot avait dit Canaan... Je pense qu'à un moment, Dieu a dit, Lot a dû regarder Canaan. Dieu a dit, non, Lot, regarde là-bas. C'est là-bas, c'est pour Abraham, c'est pas pour toi. Tu vois? Donc, et regardez ce qui se passe. Genèse 12 au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Maintenant, tu peux voir maintenant. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai.
C'est très important. Dieu a recommencé à parler à Abraham et il a recommencé à voir quand il s'est séparé de sa famille. Lot était un voile pour lui. Il y a quelqu'un d'autre encore qui, lui, dans ce cas, avait compris l'histoire du quitter là. Elle s'appelle Rebecca. Rebecca avait compris ça. Elle avait compris que tant qu'elle ne se détacherait pas de manière affective de sa famille, elle ne pourrait pas construire son foyer. Genèse 24, verset 57, la Bible nous dit, le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous. Regardez ce que la famille dit. Le serviteur de Isaac est venu chercher une épouse pour Isaac. Il est venu chercher une épouse et il dit, maintenant donnez-moi la fille pour que je l'amène à son époux que Dieu a choisi. Mais la famille est encore attachée à la fille. Ils ne veulent pas la laisser partir. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours. Ils disent dizaine de jours, ça n'est pas une dizaine de jours, là, c'est peut-être dizaine d'années. Ensuite, tu partiras. Et le serviteur répondit, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Si elle était attachée encore à sa famille, elle allait lui dire, non, je vais encore rester avec vous une dizaine de jours. Regardez ce qu'elle répond. Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Vous savez ce qui s'est passé ici? La réponse de Rebecca était la preuve pour sa famille qu'elle avait rompu définitivement le cordon ombilical affectif avec sa famille et qu'elle pouvait maintenant changer de statut social, se marier et construire son propre foyer avec l'homme de sa vie, Isaac. Elle n'était plus attachée. Elle avait compris que quitter là, Azab, c'est abandonner. Abandonner. La deuxième rupture du cordon ombilical à couper avec la famille, c'est le cordon ombilical culturel. Dis avec moi culturel. Culturel, il s'agit ici de la séparation avec les comportements de sa famille, les habitudes, la manière de penser, les valeurs familiales, l'ensemble des coutumes dans les ethnies, les traditions, etc. Tu coupes ça définitivement. Pourquoi je dis ethnie, tradition, clan, etc.? Parce qu'en Afrique, on est très attaché aux us et coutumes de nos familles. Et très souvent, on veut ramener ça dans notre foyer et ça crée des problèmes. Tu es Nzebi, tu veux épouser une femme. Mais tu veux ramener les coutumes Nzebi dans ton foyer. Et elle a dit, mais tu ramènes ça d'où? Moi, je ne sais pas comme ça chez moi. Oh, c'est toujours comme ça qu'on faisait chez moi. C'est comme ça qu'on fait chez moi. Chez moi, on doit faire ceci, cela. Vous n'avez pas... Vous, quelqu'un me dira, mais attends, on est chrétien. On est chrétien, donc il y a des choses, normalement, juste les coutumes, tout ça. Sache qu'il y a des couples qui sont chrétiens, mais qui continuent encore de pratiquer des us et coutumes ancestrales de leur famille ici. Malgré le fait qu'ils soient chrétiens. Et quand nous nous marions en Christ, s'il vous plaît, Dieu nous dit, vos us et coutumes, valeurs familiales et du monde, vous m'arrêtez ça, toi homme et toi femme, et vous embrassez pleinement mes valeurs en tant que couple chrétien. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux us et coutumes de vos familles. Ne vous conformez pas aux pratiques ancestrales de vos familles. Ne vous conformez pas à ça. Désormais, vous construisez votre propre foyer sur mes bases à moi, mes valeurs à moi. Amen. Couper le cordon ombilical culturel. Et le dernier cordon à couper, c'est le cordon ombilical spirituel. Dis avec moi spirituel. Celui-ci, le cordon ombilical spirituel, il est plus subtil, mais c'est le plus dangereux. Et il se caractérise par l'attachement à des idoles. Dans toute famille, il y a des idoles. Il y a des choses qu'on idolâtre. Et toi, quand tu es un enfant, faisant partie de cette famille, tu as tendance aussi à idolâtrer ça. Et quand tu entres dans ton foyer, tu as tendance à amener ça aussi dans ton foyer. Idole. Dis avec moi idole. Ton dans beaucoup de familles, qu'est-ce que j'entends par idole? J'entends par l'attachement aux idoles, les attachements à des dieux, à des croyances, à des génies dans les familles. Et ce lien est très dangereux au niveau spirituel, surtout quand on est des couples chrétiens. Et quand vous vous mariez en tant que couple chrétien et qu'au niveau spirituel, vous n'êtes pas mature, vous allez aller embrasser ces idoles-là. Parce que vos familles vont vous imposer ça. Vous êtes un couple chrétien. Quelqu'un de la famille est mort. On vient de l'enterrer. Maintenant, on va faire la veillée. Et quand tu arrives avec ta femme, il y a un seau avec de l'eau dedans et des feuilles devant la porte. Mais, maman, ça c'est quoi? C'est comme ça qu'on fait dans la famille. Avant de rentrer, il faut d'abord se laver. T'inquiète, il n'y a rien. Considère que c'est de l'eau bénite. Moi, je passe à côté du seau. Laissez-moi, je passe à côté de votre seau. Je ne me lave pas. Ce que je vous dis là, c'est du vécu. Ah! Mais si tu es ignorant, oh, ce n'est que de l'eau, chérie. Oh, tu as un esprit qui est rentré. Tu vois? Jonas 2, au verset 8, nous dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Jonas, livre du prophète Jonas, chapitre 2, verset 8. Donc, le lien spirituel avec la famille, il est très fort et il faut le couper. Et spirituellement, il y a beaucoup de choses qui sont dans les familles parce que les enfants n'ont pas coupé les liens. Surtout quand les enfants dans les familles, par exemple, ont été consacrés. On leur a appris à faire un certain nombre de pratiques, de choses, etc. Et demain, ils se marient. On lui a offert des bracelets. C'est la maman qui m'a offert ça depuis que je suis petit, un bracelet. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait avec le bracelet. Ta femme dit, mais chérie, enlève le bracelet là maintenant. C'est comment? Non, je ne peux pas enlever ça. C'est un bracelet que maman m'a donné. Donc, je dois garder ça dans la maison. Il n'y a rien avec le bracelet là. Elle n'a rien fait. Elle m'a juste offert ça. Mais moi, je n'aime pas le bracelet là. Je ne sens pas ça. Enlève ça. Oh, il n'y a rien. Problème. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de couples, même chrétiens, particulièrement chrétiens, puisqu'on parle des chrétiens ici, qui acceptent encore des pratiques familiales ou ancestrales dans leur maison. Et ils tuent leur foyer avec ça. Pour finir, il y a quelqu'un dans la Bible que Dieu nous montre. Je vous ai dit que dans la Bible, il y a réponse à tout, non? Il y a quelqu'un qui avait compris l'histoire du couper le cordon ombilical spirituel avec sa famille. Il avait compris ça. Et il avait compris qu'il ne prospérerait jamais tant qu'il ne ferait pas cette séparation-là. Cette personne dans la Bible, c'était Asa. Asa, c'était un descendant de David, le roi Asa, dans le premier livre de rois. Je suis sûr que c'est quelqu'un que tu avais déjà oublié, Asa. C'est l'un des seuls rois dans l'histoire d'Israël qui a prospéré et qui a réussi, comme David. Premier livre de Rois au chapitre 15 au verset 9 nous dit « La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère, dis avec moi sa mère. Sa mère s'appelait Maka. » Tu sais, si Dieu prend le temps de préciser ici « sa mère s'appelait Maka », il est en train de nous dire que la mère, la Maka, là, elle était très importante dans la vie de Asa. Elle était très importante. Sa mère s'appelait Maka. Et Dieu prend le temps de te donner même le nom de la maman. Il aurait pu dire juste sa mère. Mais il dit Maka. Va chercher ce que ça veut dire Maka derrière. Tu vas voir ce que tu vas trouver. Sa mère s'appelait Maka, fille d'Abisalom. Regarde ce qu'Asa fait. Dès qu'il arrive au trône en tant que roi, dès qu'il commence à régner, Asa discerne que spirituellement, là, il faut qu'il coupe le lien avec cette femme-là. Sinon, il ne peut pas prospérer. Sa mère s'appelait Maka, fille d'Abisalom. Asa fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Il ôta, dis avec moi, il ôta, du pays les prostituées, parce qu'il y avait beaucoup de prostituées. Et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et regarde ce que Dieu précise. Et même, il enleva la dignité de la reine à Maka. La dignité de reine à Maka. Il enleva la dignité de reine à Maka, qui était sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Sa mère était la reine. Et elle avait fait une idole à Astarté. Et cette idole était où? Dans la maison. Et je suis sûr qu'elle lui avait donné ça en partant. Parce que lui devenait roi. En lui disant, tu sais mon fils, ça va te protéger, hein? Tiens. Et lui, il dit, non, spirituellement, il faut que je coupe ça. Il enleva la dignité de reine à Maka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole et la brûla au torrent de Cédron. Et la Bible nous dit que Asa prospéra dans son royaume et fut agréable aux yeux de l'Éternel pour le reste de sa vie. Amen. Asa avait compris que spirituellement, il devait couper le cordon ombilical avec sa maman, qui avait une forte influence sur sa vie. On doit couper le cordon ombilical affectif, culturel et spirituel. La séparation avec les parents est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, l'influence des parents joue un rôle très important dans la vie des couples mariés. Et cette influence peut détruire. Ce qui est un don à la base d'avoir des parents peut devenir un danger pour ton foyer demain. Et le premier principe que tout fiancé, toute personne qui entre dans le mariage doit prendre en compte avant toute chose, c'est le principe du quitter son père et sa mère. Que quelqu'un dise amen. Amen. On va incliner la tête. Et je voudrais que tu élèves la voix, que tu pries, que tu rendes grâce à Dieu, non seulement pour sa parole, mais que tu puisses demander aussi à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu me donnes la sagesse afin de bâtir le foyer que tu m'as destiné. Demain, peut-être qu'aujourd'hui je suis encore très jeune. Peut-être que je me marierai dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre que le lien familial est... Il faut couper le lien familial et c'est quelque chose de capital. Couper le lien avec son père et couper le lien avec sa mère. Parce que le lien familial cause trop de soucis dans beaucoup de couples et je ne veux pas que mon couple, Seigneur, souffre du lien familial. Par ta grâce, je continuerai de respecter et d'honorer mes parents. Je les honorerai le jour de mon mariage comme il se doit et je les honorerai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Mais Seigneur, je veux m'assurer que je ne laisserai pas, Seigneur, l'influence de mes parents venir, Seigneur, détruire mon couple, venir s'immiscer dans mon foyer, Père. Que Dieu bénisse ma mère, que Dieu bénisse mon père pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu m'accordes la grâce de me lancer et de bâtir mon foyer avec mon conjoint, avec mon époux. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu me donnes la sagesse afin de bâtir, Seigneur, la maison, Seigneur, que tu as pour moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas être ignorant. Je ne veux pas, Seigneur, être, Seigneur, ignorant et ignorer ta parole. Ne pas considérer le commandement que tu me donnes dans ta parole. Si Adam, qui était le premier homme, a déclaré telle loi divine que désormais l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est parce que tout simplement Adam avait décidé que même Dieu ne pourrait pas s'immiscer n'importe comment dans son foyer. Et cela lui a coûté cher parce que Dieu n'est pas n'importe quel parent. Dieu est le parent au-dessus de tous les parents. Et s'il y a une seule personne que l'on peut laisser s'immiscer dans notre couple, dans notre foyer, c'est bien Dieu. Mais Adam n'avait pas su remettre sa femme à sa place et laisser toute la place à Dieu et ne pas pécher. Il a préféré suivre sa femme. Seigneur, merci, Père de grâce, pour la compréhension, Seigneur, de ces choses, pour la révélation de ta parole qui nous enseigne que le principe du quitter son père et sa mère, Seigneur, est le point de départ pour pouvoir bâtir un foyer solide et prospère. Et je te rends grâce, Père, pour l'œuvre que tu as commencé dans la vie de tes enfants, à la maison du bâtisseur et dans la vie de toutes les personnes qui écoutent, Seigneur, cet enseignement. Seigneur, je viens dans le nom de Jésus-Christ contre toute situation, Seigneur, qui mine, Seigneur, un couple marié, Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'influence de leurs parents dans leur couple, qui a cause maintenant des problèmes dans leur couple, maintenant cesse dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce couple, Seigneur, ces couples soient délivrés de l'influence de leurs parents au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit ait toute la place, Père. Je viens contre tout conflit, Seigneur, qui détruit, Seigneur, les couples en ce moment à cause de l'influence des parents. Et je déclare que seule l'influence divine du Saint-Esprit, Seigneur, construit, Seigneur, et est présente dans, Seigneur, les couples qui écoutent ce message. Et je te rends grâce parce que que désormais tu donnes la sagesse à tes enfants afin qu'ils comprennent que désormais ils doivent couper les liens affectifs, ils doivent couper les liens culturels et ils doivent couper les liens spirituels avec leurs parents afin de se consacrer pleinement, Seigneur, à bâtir leur foyer. Merci Père. Merci Père pour tout ce que tu fais. À toi soit la gloire et à toi soit la louange pour ce que tu fais encore dans nos vies. Merci pour ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence et de la sagesse aux simples. À toi soit la gloire Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen, Amen et acclame le Seigneur.
Espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.